7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, où en est la société américaine un an après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Avec une cote présidentielle au plus bas, une situation de quasi plein emploi, une bourse en pleine forme, la société américaine apparaît bien divisée sur les inégalités, sur l'immigration, sur le climat, sur l'avortement ou la question homosexuelle. Une nouvelle marche des femmes a rassemblé ce week-end des milliers de personnes dans plusieurs villes des États-Unis pour protester contre ce président sexiste, sans filtre, alors que l'administration fédérale est momentanément paralysée, faute d'accord budgétaire. Pour en parler, je reçois Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Trump, la revanche de l'homme blanc. Vous êtes chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et cofondatrice du site d'analyse chronique.fr. Alors, cet homme blanc est en colère, ajouterez-vous tout à l'heure, je pense, va devenir minoritaire dans cette Amérique multiraciale. Également, pour en parler avec nous, Gallagher Fenwick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste franco-américain à France 24. Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Cerise Maréchaux, également avec nous, journaliste, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, vous travaillez depuis plusieurs années en reportage aux États-Unis, notamment au Texas. Et bien sûr, quant à vous, les voisins, vous pouvez poser toutes vos questions, si vous le souhaitez, en direct sur l'état de la société américaine. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Tous vos commentaires, bien sûr, aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Jouez Zolo.
Soyez les bienvenus.
Marie-Cécile Nave, vous écrivez que symboliquement, la victoire de Trump sur Clinton, une femme après 8 ans de présidence Obama, un noir, annonce la revanche des hommes blancs en colère. Alors, un an après, qui est cet homme blanc plein de ressentiment? Contre qui? Contre quoi?
C'est une petite partie de la société américaine dont on a beaucoup parlé pendant la campagne. Et l'expression « angry white man » vient du sociologue américain Michael Kimmel. C'est une formule connue grâce à Michael Kimmel. L'homme blanc en colère, c'est celui qui est peu qualifié, petite classe moyenne, classe populaire, qui se sent déclassé économiquement et qui a une crainte aussi sur le plan identitaire par rapport au multiculturalisme, par rapport au progrès de l'égalité entre les hommes et les femmes, par rapport au progrès des droits des LGBT. Mais ce n'est pas l'homme américain dans son ensemble, c'est même pas l'homme blanc américain dans son ensemble. Quand on dit blanc, c'est d'origine européenne, au sens où...
Caucasien, comme disaient les Américains.
Caucasien, au sens où il n'y a pas une assignation identitaire, mais c'est une auto-désignation quand on doit remplir les formulaires
ça,
de recensement.
Ni noir, ni hispanique.
Voilà, donc ça n'a pas forcément le même sens qu'ailleurs. C'est une minorité des hommes. La majorité des hommes aux États-Unis acceptent tout à fait les progrès sociétaux, mais une partie non. Et le discours de Trump et un certain nombre de politiques publiques de Trump mises en place depuis son élection, eh bien, sont destinées à flatter cet électorat-là. Envoyer un message aussi de restauration d'un patriarcat blanc tel qu'il existait jusqu'au début des années 50, parce qu'après il y a eu les droits civiques, puis le féminisme, et de conjurer ou de retarder une évolution démographique et sociétale qui est inéluctable, puisque d'ici 30 ans, les blancs seront minoritaires aux États-Unis, c'est comme ça. Et de toute façon, on va aller vers de plus en plus d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les minorités et la majorité, entre les minorités sexuelles et la majorité sexuelle, etc.
Gallagher Fenwick, Marie-Cécile Nave parle dans son livre de cette expression qu'on retrouve souvent aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui disent on n'est pas discriminé, on est désavantagé, on s'est fait doubler dans la file d'attente. Concrètement, ça fait référence à quoi finalement dans la vie quotidienne de ces Américains-là?
À tout un pan de la population auquel Marie-Cécile faisait allusion, qui a effectivement le sentiment d'avoir été totalement oublié pendant les 8 années que Barack Obama a passé au pouvoir, 8 années qu'il a passé à faire avancer à un agenda dit progressiste, où on a vu la société américaine changer, pas seulement en apparence, mais en profondeur aussi, et en inadéquation absolue avec avec des valeurs qui continuent d'être celles, par exemple, de ces mineurs de la Virginie occidentale qu'on a redécouverts et qu'on ne cesse d'aller voir à chaque fois qu'il faut recueillir un avis favorable par rapport à ce qu'est en train de faire Donald Trump, que ce soit sur l'environnement ou de nouvelles formes de discrimination qu'on avait cru avoir disparu et qui font leur réapparition dans cette société américaine.
Alors on parlait du changement démographique qui est déjà largement amorcé. Cerise Maréchaux, vous travaillez souvent au Texas. Le renversement démographique, il est quasiment là d'ailleurs.
Oui, au Texas, il va arriver beaucoup plus tôt. C'est dès 2020 environ, la population hispanique sera supérieure à la population blanche. Et à plus d'un titre, le Texas, c'est vraiment un miroir grossissant de l'Amérique d'aujourd'hui, puisqu'il y a cette tension, ce grand écart entre un État déjà très peuplé, 28 millions d'habitants, le deuxième plus peuplé aux États-Unis, dirigé par une petite clique en fait de personnes très conservatrices, certains plus vraiment pro-business et d'autres conservateurs au sens moral.
C'est ça, sociétal du
voilà.
terme.
Mais par contre, la société du Texas est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus contrastée que ce qu'on en pense en fait, nous, de l'extérieur, notamment d'Europe, où on pense que c'est tous des porteurs d'armes à feu, etc., hyper rétrograde. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Ouais. La revanche de l'homme blanc, aujourd'hui, un an après, Marie-Cécile Nave, est-ce qu'elle est réelle ou symbolique? Elle s'observe d'abord dans le discours très machiste de Donald Trump. Il suffit de repenser à sa dernière phrase qui a défrayé la chronique en parlant d'Haïti, des pays africains, des pays de merde. C'est-à-dire des expressions qui s'apparentent à une forme de virilité. Ou est-ce qu'elle est réelle dans sa politique pour accorder cette revanche à l'homme blanc?
C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que sur certains sujets c'est quand même très symbolique et sur d'autres il y a des politiques publiques très concrètes. Mais quand on reste dans l'ordre du discours, ça ne veut pas dire que le discours ne produit pas des effets. Parce qu'il y a des dynamiques qui s'enclenchent, c'est un blanc-seing qui est donné aux masculinistes, aux Ku Klux Klan, aux suprémacistes blancs, qui sont aussi des réseaux masculiniste de défense d'une certaine forme de virilité. Mais je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est quand vous le disiez tout à l'heure, monsieur, quand il y a une remise en cause des politiques environnementales d'Obama, prétendument pour sauver un emploi industriel très masculin, hein, dans les mines ou dans l'exploitation des énergies fossiles, eh bien Trump se fait prendre en photo en train de signer un décret là-dessus, entouré de mineurs qui sont tous des hommes blancs. Donc c'est symbolique parce qu'à long terme, on ne sait pas, même à court terme, ce que ça va avoir comme effet réel sur l'emploi, mais voilà, il y a un message iconographique.
Et pas son temps à dire on adore le charbon, par exemple. Hein.
Oui, c'est une énergie propre, fermez les guillemets. Et deuxième exemple qui est pour le coup encore plus concret, avec des effets encore plus réels, récemment a été créée à Washington une agence gouvernementale qui va recueillir les doléances des personnels soignants, donc infirmiers, médecins, qui, pour des raisons religieuses, pourront refuser de prodiguer certains soins dans le cadre de leur métier. Ce qui va certainement être contesté par les associations des droits civiques, les associations féministes, qui montent déjà au créneau. C'est-à-dire que pour des raisons religieuses, on ne délivrera pas une contraception, on ne traitera pas peut-être
parce que c'est contraire à mes convictions intimes.
D'organes, etc. Donc ça pose quand même des problèmes très concrets. Oui.
Non, maintenant, ce qui m'interroge, et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, c'est on assiste effectivement à une sorte de résurgence, comme vous le dites, de cet homme blanc oublié qui semble prendre le pouvoir en la personne de Donald Trump avec ses nouvelles politiques qui choquent beaucoup, surtout au sortir de 8 années de Barack Obama. Mais est-ce que, selon vous, c'est un champ du signe d'une certaine Amérique qui va décroissante, surtout ce que l'on voit au Texas, ou alors est-ce que c'est un vrai retour en force qui va renverser des choses qui ont été faites par Barack Obama, qui semblaient emmener le pays sur une certaine voie, ou alors est-ce que c'est simplement, c'est passager, quoi, et puis derrière Donald Trump, on va revenir à quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on est connu dans les deux mandats précédents?
C'est une excellente question, merci. Je pense qu'il y a une marche vers l'égalité qui est inéluctable, mais que Trump la retarde. Mais je pense que c'est inéluctable et on le voit on en parlera sans doute tout à l'heure, dans les mobilisations énormes de la société civile contre cette politique-là, et chez les féministes, mais chez les défenseurs de l'égalité raciale, entre guillemets. Et cependant, au niveau de certains États fédérés, effectivement, il envoie quand même des signaux. Allez-y, c'est open bar entre guillemets, ouais. Pour des États très conservateurs sur la remise en cause de l'avortement, par exemple. Mais pendant sa campagne, Trump a dit mais on reviendra sur l'arrêt Roe versus Wade, dont c'est l'anniversaire, me semble-t-il, aujourd'hui.
L'arrêt qui a légalisé.
Voilà, l'arrêt de la Cour suprême de 1973 qui légalise l'avortement. On ne peut pas revenir comme ça sur cet arrêt. D'abord parce que la société est majoritairement en faveur de l'accès à l'avortement, et ensuite parce qu'il y a des garde-fous constitutionnels et juridiques qui font que... Alors, pour vous répondre voilà, très brièvement, je pense qu'il y a une marche quand même inéluctable dans toutes les démocraties occidentales vers davantage d'égalité, mais qu'effectivement certains hommes politiques, comme Trump, la retardent ou la conjurent.
Il ne serait pas dans le sens de l'histoire sur le plan sociétal et même sur le plan économique, parce que cet homme blanc dont vous avez brossé le portrait robot ne soutient pas le capitalisme financier, mais le capitalisme industriel qui ne se porte pas quand même pas très très bien aux États-Unis.
Alors, vous avez raison de dire que les classes populaires qui majoritairement votent encore démocrate, hein, mais les classes populaires qui ont voté Trump n'adhèrent pas forcément à un projet anticapitaliste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'ils sont, ils sont dans l'idéologie anglo-saxonne du néolibéralisme, mais effectivement plutôt capitalisme industriel que capitalisme financier, qui est associé aux élites.
Ouais. Et aux inégalités. C'est la fabrique des inégalités.
Et qui est associé aux élites cosmopolites.
Moi, j'ai rencontré sur le terrain, dans les Appalaches, ça couvre plusieurs États, il y a Tennessee, le Kentucky, la Virginie occidentale, etc. C'est vraiment considéré comme le territoire qui a massivement voté pour Donald Trump, mais il y a aussi eu beaucoup d'abstention. Donc il y a aussi des personnes qui correspondent à cette Amérique blanche, rurale ou prolétaire, et ces hommes blancs qui sont en colère, mais pour autant, certains n'ont pas voté pour Trump. C'est-à-dire que tous ces hommes blancs en difficulté, en précarité économique, ou qui ressentent un malaise face à l'évolution de la société, ne sont pas tous béats face à Trump. Moi, j'ai rencontré des personnes, des hommes 40 ans, 23 ans, qui ont connu des galères, qui ont vu les usines, les industries disparaître de là où ils vivent, dans le nord de la Caroline du Nord, et donc qui souhaitent davantage de protectionnisme, qui veulent que l'emploi revienne. Donc sur ça, ils espéraient que Trump fasse quelque chose. Pour autant, même pendant la campagne, ils ne l'aimaient pas, ils ne le trouvaient pas digne d'être un président, ils ne sont pas d'accord avec son attitude sexiste et vulgaire. Donc en fait, sur le terrain, on rencontre des personnes plus nuancées, plus complexes que ce que certains sondages expriment.
Oui, c'est clair.
Après, ce qui me frappe, c'est que on est en train de procéder de manière très rationnelle, et c'est certainement tout à notre honneur dans l'analyse de ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Mais je crois que l'avènement de ce pouvoir marque aussi une revanche de l'émotion et du ressenti sur le rationnel. Autant la présidence de Barack Obama était celle d'une personne profondément éduquée, intelligente, qui se servait des faits, des statistiques, des précédents pour eh bien, faire avancer de manière très calculée la société. Donald Trump, c'est avant tout quelqu'un qui n'a que faire des faits, de ce qui est prouvé, de ce qui est établi, qui parle à l'émotion, aux tripes. C'est un tribun, un populiste. Et donc, c'est très difficile d'arguer face à ça. Parce que quand il va vous dire, notamment quand il est adoubé par le Parti républicain et qui dépeint cette image d'un pays qui est gangréné par la criminalité, qui est partout porté par des clandestins qui se terrent dans les coins de rue, prêts à vous attaquer, vous, petite famille blanche, respectant les lois. Et en fait, on se rend compte, ça parle, ça marche. Et je me souviens notamment d'un très bel article d'un journaliste qui avait passé du temps avec Barack Obama juste avant l'élection, donc juste avant le 8 novembre et juste après. Et un Barack Obama se rendant compte avec ses conseillers que finalement, c'était impossible de se servir de faits pour battre ce candidat républicain, si tant est qu'on puisse dire de lui que c'est un républicain. Mais ça, c'est aussi un autre débat.
Alors, Trump a été élu malgré, ou en tout cas, ou en partie grâce à son sexisme. Hein. Quelle est sa vision des femmes, et surtout, comment se transfère-t-elle chez cet homme blanc? On en discute avec vous, Marie-Cécile Nave. Vous allez nous dire aussi quelles sont concrètement les mesures qui sont prises par Trump contre le droit des femmes, ou des minorités d'ailleurs.
Round. flood of raging death dice fall. Hothouse burned down, foes upon foes. West to east it goes, the dead girl says, let's just be friends. In the glorious tone of marrow and bone, these days of ore, the chance we meet once more. The smoke, lightning, crack asunder, the boom of guns, the peal of thunder.
Résister à passer Coco Rosie, Smoke Them Out, en face de la revanche de l'homme blanc. Il y a beaucoup de voix musicales qui veulent se faire entendre et en finir avec le président Trump. Et on entend d'ailleurs dans le refrain « Burning down the house », c'est-à-dire « Allons, faisons cramer la maison blanche
hein. ».
Marie-Cécile Naff, quelles sont concrètement les mesures prises par Trump finalement contre le droit des femmes, contre le droit des minorités aujourd'hui, un an après ?
Bien, il y a l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les menaces sur la santé sexuelle des femmes. On les retrouve aussi dans l'extension d'une mesure que Obama avait été contraint d'accepter par rapport à l'Obamacare. Dans le cadre de l'Obamacare, les entreprises d'une certaine taille sont contraintes de financer une assurance santé à leurs employés. Et les entreprises à caractère religieux avaient obtenu dans ce financement-là l'exemption de ce qui concerne la contraception et l'avortement. Et Trump l'a étendu à toutes les entreprises.
Et ça s'est répercuté également à l'extérieur des frontières américaines, puisqu'il y avait cette idée de bloquer, de cesser l'allocation de financement à des organisations, des pays pour aider dans ce domaine-là.
Quasiment la première mesure qu'il a prise en
Exactement.
Arrivant l'année dernière,
ouais.
Il a supprimé les subventions fédérales aux associations qui, dans le monde, œuvrent à la santé sexuelle des femmes et qui informent sur l'accès à l'avortement, ce qui est quand même extrêmement problématique parce que, pour parler de manière euphémisée, parce que c'est une question effectivement de contrôle des naissances, mais aussi de liberté de disposer de son corps. C'est une question de vie ou de mort parfois.
Et sur le territoire américain, on note aussi une baisse régulière des subventions sur les procédures d'avortement.
Oui, le planning familial. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous faisiez référence, Marie-Cécile, à une photo que Trump avait prise entourée de mineurs. Et là, dans ce cas, une même photo a été prise. Trump qui signe des décrets aboutissant à vraiment couper les fonds au planning familial. Et il était entouré
d'hommes blancs.
Pareil.
Oui. Et autre mesure qui, dans un autre domaine, le budget qui a du mal à être voté, on le voit avec le shutdown, c'est un des symptômes que le budget fédéral a du mal à être voté. Il doit être voté depuis septembre. Il n'est toujours pas voté. On prévoit d'augmenter de plus de 10% le budget militaire. On prévoit, ça va être fait parce que ça a été voté, une réforme fiscale qui va être sans doute financée par le déficit à moyen terme. La contrepartie, même si ça ne compensera pas, c'est des coupes dans le budget de l'éducation, de la santé pour les plus pauvres, notamment les dispositions de Medicaid, et dans la culture. Alors là, ça pénalise les femmes dans la question de l'accès à la santé, par exemple, surtout les mères célibataires. Mais ça les pénalise aussi dans le sens où, comme chez nous, l'emploi dit féminin, on le retrouve dans ces secteurs-là.
Sur le plan de la santé, puisque vous en parliez, mais du côté de l'homme blanc, puisque votre livre s'appelle « La revanche de l'homme blanc », Cerise Maréchaux, on a beaucoup parlé dans l'actualité de cette addiction des Américains aux antidouleurs. L'homme blanc est en première ligne de ces addictions-là.
Oui, alors on en a beaucoup parlé récemment, notamment parce que Donald Trump a décrété que c'était un cas d'urgence sanitaire. Alors c'est pas nouveau, ça date depuis le début des années 90, une addiction aux opioïdes, donc des antidouleurs, qui frappe essentiellement l'Amérique blanche rurale ou prolétaire, à tel point qu'il y a 90 Américains qui meurent par jour de ça d'overdose. Et c'est devenu la première cause de mortalité à moins de 50 ans.
On en reparle avec vous juste après le flash dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle des États-Unis ou plutôt de la société américaine un an après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir avec une cote de popularité très basse, 37% de satisfaits, ce qui n'empêche pas cette fameuse revanche de l'homme blanc. C'est ce que vous publiez, Marie-Cécile Nave, Trump, la revanche de l'homme blanc. On en discute aussi avec vous, Gallagher Fenwick, journaliste à France 24, franco-américain, Cerise Maréchaux, reporter, vous êtes fréquemment sur le territoire américain. Ce week-end, dans la presse, dans le journal Le Quotidien aujourd'hui en France, il y avait cette formule intéressante qu'on retrouve très souvent d'une électrice pro-Trump, Anna, qui est en Pennsylvanie, n'a pas n'importe où d'ailleurs, et qui dit à propos du président américain, il n'a pas de filtre, mais il parle comme nous, il pourrait d'ailleurs entrer dans ce bar, et sans son costume, on ne devinerait jamais qu'il s'agit du président. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Donc là, on était sur le symbolique, mais vous le disiez aussi en première partie d'émission, Marie-Cécile Nave, le symbolique a aussi des effets sur l'état de l'opinion, la façon dont elle perçoit la politique américaine. En fin de première partie, juste avant le flash sur Cerise Maréchaux, on évoquait cette addiction aux antidouleurs qui est un problème national. D'ailleurs, Trump l'a déclaré urgence sanitaire nationale, même s'il n'a pas encore rassemblé de fonds, me semble-t-il.
Et son plan est plus que flou.
C'est là que
c'est ça,
blesse,
cette fameuse urgence nationale. Alors, c'est pas un problème médical, c'est un vrai problème de société. Parce que cette addiction aux antidouleurs, ce qu'on appelle les opioïdes, c'est bien ça, Gallagher Fenwick, c'est un problème, je ne sais pas si on peut dire de classe, mais en tout cas qui concerne l'homme blanc.
Absolument, et c'est là que l'attitude des autorités a commencé à changer de manière drastique ou dramatique, c'est-à-dire que, puisqu'on parle des opioïdes, des opiacés, et donc a fortiori
qui est délivré en principe par ordonnance,
ordonnance. Exactement, ça a été, il y a quelques décennies, un problème particulièrement prégnant au sein de la communauté noire américaine. Et là, on a pratiqué la politique d'incarcération de masse. Exactement.
Et puis, un traitement très différent des deux épidémies.
Un traitement carcéral, une pénalisation.
Pour les noirs et l'épidémie.
Parce que le crack, c'est de la drogue.
Tout à fait. Mais les opiacés aussi, ce sont des produits profondément addictifs, dangereux. Mais à partir du moment où ce sont des blancs qui ont commencé à le consommer, à en mourir, à le trafiquer, là, on a vu quand même un changement d'attitude de la part de la police et des autorités.
Une attitude qui considère ces personnes davantage comme des victimes et avec plus de compassion. Ce qui est important de souligner, et ça rejoint les mutations démographiques des États-Unis aujourd'hui, c'est que cette crise est tellement importante, c'est la plus grave crise liée à la drogue dans l'histoire des États-Unis. Elle a vraiment contribué à la baisse de l'espérance de vie chez les Blancs tout récemment. Et en plus, cela se croise avec la hausse de l'espérance de vie des Noirs et des Hispaniques. Donc symboliquement, en fait, en plus de la douleur de voir des familles décimées, il y a, en plus de l'angoisse de la précarité chez l'Amérique blanche, il y a une angoisse de la mortalité, de la disparition.
Absolument.
Ouais. Marie-Cécile Nave, dans le fond, pourquoi cette petite classe moyenne blanche que vous avez décrit en première partie d'émission, base de l'électorat de Trump, mais qui aujourd'hui, avec la situation quasi plein emploi aux États-Unis, finalement ne se porte pas si mal. D'ailleurs, vous le dites, ce ne sont pas les plus pauvres aux États-Unis. Walmart, le numéro 1 de la distribution, premier employeur du pays, a annoncé une augmentation de son salaire minimum grâce aux réductions d'impôts, ces gens-là...
La perception, c'est la réalité. Ces gens-là s'imaginent que rien ne va, alors que vous, objectivement, vous leur prouvez que tout va, mais qu'on leur dit, effectivement, rien ne va, et eux ont décidé que rien ne va dans leur vie, c'est leur réalité, c'est la manière dont ils perçoivent les choses. Par opposition, par exemple, à ces élites des côtes, que ce soit à New York ou en Californie, où on voit ces stars qui adoubent le parti démocratique, et eux, ils se sentent complètement coupés de ça.
C'est ça. Alors, rien ne va ou rien ne va plus ou rien ne va plus aussi bien qu'avant, finalement, Marie-Cécile Nave, parce que vous expliquez bien que cette classe moyenne blanche, son revenu a diminué durant les dernières décennies.
Alors, c'est pas la majorité des électeurs de Trump, quand même. La majorité des électeurs de Trump, c'est un électorat républicain traditionnel, c'est-à-dire plutôt les classes moyennes supérieures et les CSP+. Qui votent à égalité démocrates et républicains. Et la majorité des pauvres ne votent pas aux États-Unis.
Donc si Trump a fait un score historique chez les blancs non diplômés du supérieur.
Exactement. Il a fait plus 14 points que Romney par rapport à 2012 chez ceux qui gagnent moins de 30 000 euros par an. Mais ça reste quand même un électorat majoritairement démocrate, mais bon, sauf chez les blancs. Enfin bon, c'est un peu complexe. La politique de Trump, la politique économique de Trump, elle consiste en deux choses. Elle consiste à déréguler au maximum, notamment sur les questions environnementales, et à alléger les impôts, pas de toutes les entreprises, des grandes entreprises. Et des plus aisés. Et finalement, il bénéficie très largement de la confiance des marchés financiers, précisément parce qu'il dérégule. Et il bénéficie aussi d'une dynamique économique enclenchée par Obama. Il faut le dire, la baisse du chômage, c'est les années Obama, c'est la politique qu'il a mise en place pour résorber la crise de 2008. Par ailleurs, oui, on est presque dans une situation de plein emploi, pas tout à fait, mais quand même. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'emplois à temps partiel, que l'emploi est flexible, qu'il n'y a pas de salaire minimum au niveau fédéral. Certains États fédérés qui l'ont mis en place, certaines entreprises... Donc après, il y a certaines entreprises.
Il y a une forte précarité aussi dans l'emploi.
Oui, il y a une forte précarité dans l'emploi. Et certaines entreprises savent communiquer habilement pour bien se faire voir de Trump parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Apple récemment, qui dit voilà, je vais rapatrier. Vous voyez, c'est grâce à la réforme fiscale de Trump que je rapatrie 250 milliards d'actifs et je vais injecter dans l'économie en 350 milliards de dollars.
Et ces petites entreprises qui annoncent aussi à grand renfort de communiquer qu'elles vont verser des primes à chaque employé dans les supermarchés ou quoi, parce qu'il y a eu cette réforme
fiscale. Oui, mais rien ne dit qu'ils ne l'auraient pas fait quand même. Et surtout, Apple ne va pas rapatrier aux États-Unis son outil de production qui est en Chine, qui là, pour le coup... créerait des dizaines de milliers d'emplois.
Oui, alors, les promesses de politique plus protectionniste pour vraiment ramener l'emploi en Amérique, Make America Great Again, ça reste à prouver et il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour Trump et qui sont vraiment en train d'éprouver une déception cuisante.
Oui. Alors néanmoins, cette revanche de l'homme blanc, c'est aussi ce sentiment, on le disait en première partie d'émission, ce sentiment d'être tout le temps doublé dans la file d'attente par les Noirs, par les Hispaniques, par les femmes. Mais quand on regarde les salaires, par exemple, des femmes, qui sont plus diplômées d'ailleurs en moyenne que les hommes. Il y a toujours d'énormes différences salariales, plus importantes d'ailleurs que la moyenne des pays développés. Elles gagnent 20% de moins que les hommes, emploi à temps plein avec des... Alors évidemment, elles font pas les mêmes métiers aussi, mais tout de même.
Oui, la différence est encore plus grande dans certaines minorités ethniques. Chez les Noirs, c'est encore pire.
Mais je ne sais pas si l'inégalité salariale, c'est vraiment propre aux États-Unis, on ne la retrouve pas ailleurs. Je pense que c'est quand même un problème mondial, notamment dans le monde occidental, et ça, c'est chiffré.
Elle est plus importante qu'en Europe du Nord, par exemple, sans problème.
Oui, mais c'est à peu près comme chez nous, c'est à peu près comme en France, même s'il faut croiser... le sexe et l'origine ethnique.
Alors, d'après les personnes que j'ai rencontrées, les hommes blancs que j'ai rencontrés dans les Appalaches, j'ai le sentiment que c'est leur mal-être, leur malaise, leur frustration, elle est surtout qu'ils ont le sentiment que leur parole est moins légitime. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, ils n'ont pas le droit d'exprimer leur malaise par rapport à l'homosexualité ou par rapport aux personnes transgenres, ils n'ont pas le droit d'exprimer leur malaise par rapport à l'immigration. Donc c'est un sentiment d'être aphone et d'être peu respecté.
Si les deux tiers des Américains ne sont pas contre le mariage pour tous, par exemple.
Oui, tout à fait, mais il y avait vraiment ce ressenti au sein de cette population, et vous parliez des gens qui vivent dans les Appalaches, qui est vraiment l'endroit le plus pauvre de tous les États-Unis. C'est absolument terrifiant, quoi. C'est un degré de pauvreté qu'on n'imagine pas sinon l'un des pays les plus riches au monde. Mais il y a vraiment, durant les années Obama, le sentiment de valeur bafouée et sans que la pédagogie qui était nécessaire ait été faite. C'est-à-dire que ces gens, ils sont pas à fond... Enfin, ils y sont opposés, peut-être de manière timorée, mais on leur a pas bien expliqué en quoi est-ce que, par exemple, effectivement, légiférer sur le mariage pour tous et légaliser ça au niveau fédéral n'allait pas mettre en danger leur pratique ou leur croyance.
Alors Marie-Cécile Nave, vous avez vraiment choisi de regarder la société américaine vraiment par le prisme du genre, notamment dans ce ras-le-bol, dans cette colère de l'homme blanc, et y compris pour les questions environnementales. Bon, on le sait, Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris en juin dernier, et vous écrivez sur les questions d'environnement, la protection de l'environnement par les pouvoirs publics est vue à la fois donc sous-entendu par l'homme blanc, comme une intrusion inacceptable dans leur vie, mais aussi comme un processus injectant de la douceur, du care, le fameux care, c'est les métiers du soin, infirmière, institutrice, c'est-à-dire comme une chose féminine, passive. Selon eux, il n'y a qu'une alternative, l'environnement ou les emplois.
Oui, pour une partie de cette population-là, avec un appui sur un travail vraiment très intéressant de la politiste Harley Russell Rothschild, à qui on doit l'expression être doublée dans la file d'ailleurs, qui a fait un long travail d'enquête dans les bayous de Louisiane, où elle a rencontré beaucoup de cette population qui prend la pollution comme un risque nécessaire pour la création d'emplois, pour le capitalisme, et qui n'a pas peur de se mettre en danger, en fait. Se mettre en danger, ne pas être dans le souci de soi, ne pas être trop dans la protection de soi, c'est assez effectivement genré, on le sait, hein, c'est dans nos pays de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça aussi, le fait de ne pas prendre soin de soi, le fait de ne pas prendre soin de sa santé, c'est plus un problème masculin que féminin, parce que c'est une construction sociale.
Et dans la droite ligne, utilisons les ressources naturelles jusqu'au bout du bout du bout, y compris d'ailleurs si on appartient à la religion chrétienne.
Oui, il y a un croisement de la logique capitaliste.
Une absence de logique capitaliste, parce qu'aujourd'hui le charbon, ça crée très peu d'emplois, alors que les énergies alternatives, notamment aux États-Unis, c'est un potentiel, c'est un vivier économique massif.
C'est tout le paradoxe de gens qui se disent, au contraire, pas du tout opposés au capitalisme.
C'est une vision très court-termiste du capitalisme, effectivement, qui est d'exploiter au maximum les ressources, et qu'on croise avec effectivement des références à la Bible qui disent la nature est là pour être dominée par l'homme, et s'il arrive des catastrophes naturelles, eh bien c'est la fatalité, c'est la volonté de Dieu.
Ouais, du tout relayé par le Vatican, hein, d'ailleurs. Enfin bon.
Non, mais c'est un pays protestant.
Oui, voilà, justement. alors comment s'organise la résistance un an après, non pas dans la classe politique, mais vraiment dans la société d'un point de vue citoyen? On va en parler. Encore une autre voix musicale contre Trump qui dénonce le sort d'ailleurs notamment réservé aux communautés noires. Voici le rappeur new-yorkais Joey Badass.
Can't change the world as we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak what's felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3 K's, 2 A's in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do or say today that's worthwhile. We're for sure inspired your action and your first child. I begin my first now. Sometimes I speak and I feel like it ain't my words. Like I'm just a vessel channeling inside this universe. I feel my ancestors arrested inside of me. It's like they want me to shoot my chance and change the society. But how do I go about it? Tell me where I start. My destiny rerouted when I chose to follow heart. You told to follow suit, but tell me what it do for you. Except where you down, now you trapped inside the cubicle they built for us. The first step in the change is to take notice. Realize the real gains that they tried to show us. 300 plus years of them cold shoulders. Your 300 million of it still got no focus. Sorry America, but I will not be your soldier. Obama just wasn't enough, I need some more closure. And Donald Trump is not equipped to take this country over. Let's face facts, cause we know what's the real motives. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Yeah.
C'est le rappeur Joey Badass, justement, Gallagher Fenwick. Vous commentiez pendant la diffusion de la chanson toute cette mobilisation musicale anti-Trump.
Absolument, avec ces artistes, pas seulement du côté de la musique, mais on le voit dans l'univers du cinéma, du théâtre, qui sont mobilisés sur des causes progressistes, qui sont plutôt proches des milieux démocrates, mais c'est une arme, entre guillemets, culturelle à double tranchant, parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui se parlent entre elles, ces élites côtières qui ont leurs artistes, qui sont fidèles à la cause, alors qu'on va y opposer, et c'est cliché, mais il y a une réalité derrière ce cliché, les chanteurs de country qui, eux, chantent pas du tout la même chose.
Sauf ouais. Willie Nelson, grand chanteur country au Texas, qui est progressiste.
Ça veut dire que cette mobilisation culturelle, elle serait plutôt de nature à exacerber encore plus la colère de l'homme blanc et le clivage.
Le clivage entre ces deux Amériques qui ne se parlent plus et qui ne se chantent plus des chansons l'une à l'autre.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que les goûts culturels sont beaucoup plus sont répartis de manière beaucoup moins clivée qu'on pourrait le penser. Il y a une question de génération aussi. dans les générations blanches qui aujourd'hui sont minoritaires, hein, un enfant sur deux qui naît aujourd'hui aux États-Unis est issu des minorités. La circulation des goûts culturels, des contenus culturels est beaucoup plus importante qu'autrefois avec Internet, avec y a un plus grand métissage qui est quand même relatif, mais dans la jeunesse américaine, notamment au lycée, à l'université, c'est un peu différent. Donc, bon, c'est pas la country qui est conservatrice et qui est écoutée par les blancs, et le rap qui est progressiste et qui est écouté par les noirs, c'est un peu plus compliqué que ça. On le voit aussi ailleurs. Mais bon, c'est vrai que il y a toujours cette image d'élite culturelle, intellectuelle, qui est associiée à la gauche culturelle dans le sens négatif qu'elle peut avoir et au politiquement correct dans le sens négatif qu'il peut avoir.
Les rappeurs les plus connus ou les artistes les plus connus ici aux États-Unis, que ce soit Jay-Z ou Beyoncé pour ne parler que d'eux, ont clairement choisi leur camp comme beaucoup de leurs pairs. Et ça s'est vu, regardez qui Donald Trump a choisi de faire chanter lorsqu'il a été investi,
qu'il a célébré. Il a eu du mal à trouver. Oui, mais c'est un soft power important. Beyoncé et tout ce divertissement populaire, c'est un soft power important qui a une influence importante dans toute la jeunesse américaine, quelle que soit la couleur de peau.
Alors, Cerise Maréchaux, à l'heure actuelle, dans la classe moyenne, du côté des organisations citoyennes, comment s'organise, quelle forme prend la résistance?
La résistance s'organise très bien, justement. En fait, dès le lendemain de l'élection de Donald Trump, il y a un mouvement qui s'appelle Indivisible qui est né et qui fonctionne vraiment comme un lobby démocratique. En fait, l'idée, c'est revenir au rouage de la démocratie locale, faire pression au niveau local sur nos représentants au Congrès, donc l'équivalent des députés et les sénateurs. Et ce mouvement, il existe vraiment pour faire barrage à Donald Trump et faire barrage sur des aspects très concrets comme la réforme de la santé, comme la construction du mur, etc. Il y a 6000 comités locaux aujourd'hui dans tout le pays. Et c'est un mouvement qui a vraiment prouvé son efficacité, qui a eu un rôle important dans l'échec de la réforme santé de Donald Trump, qui voulait éliminer la réforme santé de Barack Obama, et qui, par exemple, récemment, a aussi eu un impact important dans l'échec de Roy Moore, qui était le candidat républicain. Absolument. Au poste de sénateur en Alabama, pourtant état très conservateur, qui a été doublé par le candidat démocrate. Et ça, c'est grâce à la fois...
Alors qu'il y avait un dossier assez chargé, hein, il faut dire aussi, voilà, avec notamment des accusations d'agression sexuelle.
Oui, mais ça s'est joué le fil, quoi. C'était pas du tout gagné d'avance.
Parce qu'un État très conservateur, mais il faut quand même noter que là, il y a eu une synergie très intéressante entre la résistance citoyenne vraiment ciblée contre Trump. C'était aussi la première élection de l'ère MeToo, du mouvement MeToo.
J'ai été agressée sexuellement. Mais justement, puisque vous parliez des femmes, parce que la défaite de Roy Moore dans l'Alabama, ça a été beaucoup grâce à la mobilisation
des femmes. Alors, des femmes noires en priorité qui ont à 98% voté pour le candidat démocrate. Alors, ces femmes noires en Alabama, elles sont mobilisées et elles votent démocrate depuis longtemps, mais là, elles se sont encore plus mobilisées. Et il y a aussi des personnes qui, avant, ne votaient pas, ou même qui, avant, avaient voté pour Trump, qui, là, ont voté pour le candidat démocrate.
C'est ça, femmes qui disent, hein, d'ailleurs, Trump a fait de moi une militante.
Mais c'est ça. Et si vous voulez, ce qui a été vraiment compris, c'est que la mobilisation citoyenne, c'est une chose. De faire descendre des dizaines de milliers, parfois même des millions de personnes dans les rues, c'est une chose. Mais il faut que cela se traduise dans les urnes par des victoires. On l'a vu dans l'Alabama, il ne faut pas oublier qu'en 2018, c'est une année électorale, les élections de mi-mandat, et c'est là qu'on va pouvoir mesurer ou non la toxicité, entre guillemets, de Donald Trump. Est-ce que c'est un président qui va anéantir les chances des républicains de préserver leur majorité dans les deux chambres ou pas?
Ouais. Il a perdu beaucoup de soutien parmi les républicains depuis un an.
Marie-Cécile Nave, vous posez cette question dans votre livre, le féminisme peut-il prendre la tête de l'opposition à Trump? Est-ce que, il faut dire le féminisme ou les femmes d'ailleurs?
Alors, les féminismes, de manière générale, parce qu'il y a plusieurs types de féminisme. Il y a le féminisme intersectionnel qui prend en compte la question raciale, le féminisme plutôt des jeunes générations, et le féminisme plus traditionnel à la Hillary Clinton. Le féminisme est largement porté par des femmes, il est porté par des hommes aussi, mais effectivement...
Et porté par l'actualité depuis l'affaire Harvey Weinstein, depuis octobre dernier.
Le féminisme, comme on vient de le dire, le féminisme, c'est du militantisme. les femmes, c'est les électrices. Donc comment faire la conjonction entre ce militantisme et le Parti démocrate, qui pour l'instant est quand même encore sonné par sa défaite de 2016, qui a perdu à cause de l'abstention. C'est l'abstention qui fait part d'Hillary Clinton, parce que les gens ne sont pas l'électorat démocrate, c'est peu déplacé. Comment faire en sorte que les revendications de la société civile puissent trouver un écho dans le Parti démocrate? C'est-à-dire comment le Parti démocrate peut arriver à prendre acte des revendications de la société civile et d'en faire un projet de cohésion, ou un projet qui prenne en compte ces différentes aspirations, en fasse quelque chose de cohérent. Ça semble quand même un petit peu fonctionner, vous l'avez dit tout à l'heure, en Alabama. Le Parti démocrate dit qu'il n'a jamais eu autant, dans les années récentes, de sollicitations de femmes pour être candidates à des élections locales. Donc il y a un réveil quand même qui vient de la société civile, et l'action, c'est le hiatus entre l'offre électorale,
c'est ça,
et les revendications.
Mais cette cohérence, en admettant qu'elle arrive à se créer dans la lutte anti-Trump, comment proposer une alternative à la colère de Trump sans mettre dos à dos les hommes et les femmes, les blancs et les autres, les différentes classes sociales?
C'est tout l'enjeu, effectivement, puisque Trump vit du clivage, entretient les clivages sociaux, raciaux, genrés, etc. Il vit
et de
ça.
La colère.
Oui, c'est un président du chaos qui entretient vraiment, qui n'est pas dans un projet de cohésion sociale. Il faut arriver à faire un projet émancipateur, de cohésion nationale et optimiste, tournée vers l'avenir. Ce qu'avait, chez les Républicains, réussi à faire Reagan en 1980.
Il faut voir si les démocrates arrivent à faire émerger un candidat qui est qui puisse rassembler le parti, les électeurs, mobiliser cette fameuse coalition Obama qui a très largement été absente en 2016 et qui n'a pas répondu à l'appel d'Hillary Clinton, ou dans une moindre mesure. Ça va être un énorme défi.
Alors, d'où la question sur Oprah Winfrey, femme d'affaires, présentatrice de télévision, noire, qui évidemment a fait sensation lors de son discours au Golden Globes. Est-ce que c'est le strict négatif de Trump, noire, femme, battante, mais aussi résiliente, parce qu'elle n'a jamais caché le fait d'avoir été violée, bien qu'elle soit riche et populaire comme Trump?
C'est impossible à prédire, mais ce qui est intéressant en tous les cas, ce qu'on note, si vous voulez, si on regarde les dernières élections présidentielles aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même un aspect fascinant de ce pays, c'est ce balancier en fait, où on passe de George W. Bush à Barack Obama à Donald Trump, où maintenant on plaisante en disant que quand on écoute les discours de Donald Trump, on regrette ceux de George W. Bush en se disant c'était un grand leader, très éloquent. Et donc, est-ce que la réponse à Donald Trump, c'est ce balancier qui va encore plus loin vers la gauche? Pourquoi pas du côté d'une Oprah Winfrey ou de quelqu'un avec ce profil-là?
Et on parle souvent des États-Unis, c'est aussi pour ça que ce pays fascine, pour son côté, les grands écarts, les extrêmes. Mais c'est aussi un pays qui est quand même beaucoup plus nuancé. Et le clivage aujourd'hui, il est mouvant. Par exemple, il y a plus de la moitié des républicains aujourd'hui qui admettent l'existence du réchauffement climatique. Alors, il y en a moins qui admettent que ce réchauffement climatique, il est lié à l'action humaine, mais les choses bougent. Il y a aussi de plus en plus de républicains qui ne sont pas convaincus que le mur à la frontière avec le Mexique soit une bonne idée. Donc il faut faire confiance
à
cette société pour évoluer. Et il y a des initiatives qui sont en place aussi pour que les gens dialoguent, justement. Moi, je pense qu'un dialogue est en train de se mettre en place de manière timide, mais... voilà,
je pense que ce qui était fascinant aussi lors de mes déplacements, notamment dans les États du Midwest, dans la course à la présidentielle, j'ai rencontré beaucoup d'électeurs. Au début, je pensais qu'ils se moquaient de moi, que c'était une plaisanterie, qu'ils me disaient qu'ils hésitaient entre Bernie Sanders et Donald Trump. J'en ai rencontré un ou deux. Donc j'ai fait des interviews en me disant, alors j'ai trouvé l'exception, etc. Et puis ça s'est multiplié. Et ça prouve quand même qu'effectivement, il y a ce balancier qui risque peut-être...
Une volatilité, oui.
Ouais,
alors là, quand même, Trump va-t-il terminer son mandat, voire être réélu? Là, quelles sont vos convictions intimes?
C'est la question à un milliard d'euros.
Je pense que c'est difficile, après le 8 novembre 2016, d'avoir des convictions intimes, parce que la surprise a été tellement grande. On est tellement dans une politique de l'inédit à plein de points de vue que celui qui pourrait prédire ce qui va se passer, encore une fois, parce que, et j'insiste là-dessus, on est dans une espèce d'Amérique post-factuelle, donc procéder de manière rationnelle en prouvant que voilà, il y a une émergence, des minorités qui vont de plus en plus être mobilisées ou quoi, et donc il va perdre. Je ne sais pas si...
Vous ne voulez pas vous risquer, Gallagher Fenwick. Et vous, Marie-Cécile Nave?
Rien n'empêche dans le projet politique des démocrates de jouer aussi sur les affects et sur l'émotion. Et d'ailleurs, Obama a joué là-dessus. Il a joué sur un storytelling de la cohésion nationale, de l'espoir. Sans doute qu'il faudra aussi jouer sur l'irrationnel pour contrer Trump. Moi, je voudrais déplacer un peu le regard sur la suite de la présidence Trump du côté du Parti républicain. Parce que le Parti républicain est extrêmement divisé. On le voit aujourd'hui avec ce sujet qui est la patate chaude du Parti républicain, qui est l'immigration, qui est le sujet qui les divise le plus depuis au moins 10 ans. Aujourd'hui, ça se traduit par le blocage des institutions avec le shutdown. Hein. C'est sur l'immigration qu'ils sont pas d'accord. Est-ce que le Parti républicain va continuer de soutenir
Trump?
Pour
des raisons économiques, d'ailleurs. Hein, le débat, il a lieu. Il n'est pas seulement idéologique. Hein.
Ben, l'économie peut être idéologique aussi, je vous rassure. Est-ce que le Parti républicain va continuer de soutenir Trump dans les mois qui viennent? C'est pas sûr. Parce que, premièrement, ils ont obtenu la grande réforme fiscale dont ils rêvent depuis 30 ans. C'était vraiment le gros truc qu'ils espéraient de Trump. Ils voient que sur la réforme de l'Obamacare, ça va être compliqué. Mais enfin, bon, ils ont obtenu ça. Donc maintenant, quel intérêt ils ont à soutenir Trump? Alors que Mike Pence servirait beaucoup plus leurs intérêts, dans le sens où il connaît le fonctionnement des institutions et surtout il l'accepte. Et deuxième chose, l'enquête du procureur spécial Mueller est toujours là, hein, sur les taux qui se resserrent autour de l'entourage Trump, avec sans doute une affaire d'espionnage étranger aux États-Unis, c'est ça quand même qui se passe. L'image du président Trump se dégrade, y compris dans son électorat. Est-ce que du côté des Républicains, on va continuer à le soutenir dans les mois qui viennent en vue des élections de mi-mandat? Ça m'intéresse de suivre ça.
Ce sera un grand révélateur, ces élections. Hein,
ça m'intéresse. Oui, mais ça va être le grand test. Une plus grande participation, en tout cas.
Merci à vous tous. Rendez-vous, bien sûr, au moment de ces élections à mi-mandat et probablement même aussi avant. Merci à vous tous. Marie-Cécile Nave, Trump, la revanche de l'homme blanc, comprend mieux qui il est, aux éditions textuelles. Gallagher Fenwick de France 24 et Cerise Maréchaux, reporter. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe.
Merci.
Demain, 7 milliards de voisins. Dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein, on parlera de la libération de la